Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux visiteurs, ceux qui viennent là pour la première fois ou pour une des premières fois. Sentez-vous accueillis et chez vous. Un petit clin d'œil en particulier à la famille Devin qui n'est pas là pour la première fois, mais qui ont été des nôtres pendant quelques années. C'est toujours un plaisir de vous revoir et de partager ces temps avec vous. Je voudrais juste démarrer par la prière. Oui, Seigneur. Merci pour ce temps où on a pu se tourner vers toi. Merci pour ce temps où on a pu t'admirer. On a pu chanter tes louanges. On a pu aussi reconnaître notre besoin de toi. Et Seigneur, nous te prions que tu conduises ces moments, que tu éclaires nos cœurs par ta parole, que tu nous encourages, que tu nous inspires, que tu nous reprennes, que tu nous aides à avancer avec toi. Car nous désirons être avec toi, Seigneur. Conduis-nous, conduis ce temps. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Il y a quelques années de cela, même beaucoup d'années, hein, c'était je pense 25-26 ans, on était descendu dans la famille avec Rebecca pour voir sa sœur et son beau-frère et leurs 6 enfants. À l'époque, nous n'avions pas d'enfants, donc quand on passait un week-end chez eux, c'était toujours un week-end très décoiffant, mais passionnant parce que c'était chouette de pouvoir passer du temps avec eux et avec nos neveux, nos nièces. Et ce week-end où nous étions là, on n'avait pas fait exprès, mais c'était l'anniversaire de Jonathan, l'avant-dernier, qui allait avoir 3 ou 4 ans, je ne sais plus. C'était le petit dernier. Bon, il y avait un petit bébé qui était là encore, qui venait de naître il n'y a pas longtemps, mais pendant des années, il avait été le petit dernier. Et là, c'était son anniversaire qui arrivait. Un âge où on se souvient de son anniversaire, où on comprend ce que c'est son anniversaire. Et toute la famille était là. « Jonathan, tu vas être grand maintenant, tu vas aller à l'école. Là, tu changes de cap maintenant. Les choses vont être différentes. C'est ton anniversaire. » Le dimanche matin, on se lève, on déjeune avec les quelques enfants qui arrivent au compte-gouttes et on entend des cris, des pleurs. C'est la crise. Le papa Joël arrive et nous dit « Jonathan s'est levé. » Il s'est regardé dans le miroir et il n'avait pas grandi. Et oui, les choses ne se passent pas toujours comme on imagine qu'elles devraient se passer, n'est-ce pas? C'est vrai dans la vie, mais c'est vrai avec Dieu aussi, n'est-ce pas? Les choses ne se passent pas toujours comme on pense qu'elles devraient se passer. En particulier, Dieu ne répond pas toujours à nos prières. Dieu, non seulement ne répond pas, mais on voit dans la Bible qu'il n'agrée pas toutes les prières, il ne considère pas ou il n'approuve pas toutes les prières. Et je pense que c'est l'expérience de chacun et de chacune. Pourquoi Dieu ne répond pas à toutes nos prières? Pourquoi Dieu ne reçoit pas toutes nos prières? C'est une vraie question, pas une question rhétorique. À votre avis, dites-moi, pour vous. Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à toutes les prières? Pourquoi est-ce que Dieu ne reçoit pas toutes les prières? À votre avis. Parce qu'il est Dieu, et donc effectivement, il est souverain, et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Ouais. Ouais. Mais est-ce que dans son amour, c'est peut-être justement par amour qu'il ne répond pas toujours? Effectivement. Dieu répond en son temps. Nicolas, tu voulais dire? Et c'est parfois une bonne réponse. C'est parfois celle dont on a besoin, effectivement. Et il faut se réjouir des noms. Il faut se réjouir des noms aussi, ouais. Tout à fait. D'autres choses encore? Ça dépend de la demande. Effectivement. Effectivement. Ça dépend de la demande. Si je suis supporter du PSG et que Yanis est supporter de l'OM et qu'il y a un match, on peut prier tous les deux. Mais un de nous n'aura pas la réponse qu'il attend. Ou il y aura un match nul, je ne sais pas, mais... Effectivement. Oui, Dieu ne répond pas toujours à nos prières. Et même, pour aller plus loin, Dieu n'approuve pas ou ne considère pas toujours toutes nos prières, ne reçoit pas toutes nos prières. Dans le passage que nous allons voir de Luc 18, Jésus partage une parabole pour nous encourager à persévérer dans la prière. Et c'est le début de ce chapitre 18. Pour ceux qui étaient là il y a quelques semaines, Janine nous a parlé de cette parabole. C'était la parabole du juge mauvais, du juge inique et de la veuve persévérante. De la veuve qui ne lâche pas l'affaire, qui va casser les pieds à ce juge. Et par cette parabole, Jésus nous invite à persévérer dans la prière, à avoir foi en Dieu. Et là, il enchaîne avec une deuxième parabole. Une parabole qui reste autour de ce thème de la prière. Mais dans cette parabole, Jésus ne va pas forcément nous faire un cours sur la liste exhaustive de toutes les raisons pour lesquelles Dieu ne recevrait pas notre prière. Mais il veut nous inviter à réfléchir à notre attitude, à notre cœur, lorsque nous voulons saisir cette grâce, ce cadeau que Dieu nous fait, celui de nous écouter, celui de nous permettre de nous approcher de lui pour lui parler. Je vous invite à lire ces quelques versets de Luc 18, du verset 9 au verset 14. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère, comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts, là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. » Dans cette parabole, une prière a été entendue, mais pas l'autre. Une prière a été agréée, a été reçue, considérée, mais pas l'autre. Un personnage a été justifié, mais pas l'autre. Pourquoi ? Deuxième question que je vous pose. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'un personnage est justifié et pas l'autre ? Pourquoi est-ce qu'une prière est entendue et pas l'autre dans cette parabole ?
Celui qui est justifié est humble.
Oui. Tout à fait. Exactement. Il y en a un qui formule une demande et l'autre ne demande même rien. Exactement. Entre ce que vous avez répondu et les chants qu'on a fait ce matin, j'ai plus rien à dire. Je vais me simplifier la préparation de mes prédications. Vous avez tout dit et je vous en remercie. Effectivement. Et vous avez raison. Mais j'aimerais reprendre néanmoins, puisque j'ai préparé le message, je vous le donne, hein, après tout. Il y a quand même une petite difficulté pour nous, et on peut passer à côté du... On peut rater en tout cas le côté dérangeant de cette parabole. Les enfants ne sont plus là, mais quand on regarde certains dessins animés ou certains films pour enfants, il suffit de voir le personnage et on sait s'il va être gentil ou méchant. Si on fait l'exercice de quel côté est la méchante, de quel côté elle est gentille, c'est simple, après tout. Et dans notre histoire, quel est le bon exemple ? Nous, aujourd'hui, à Pontcharrat, au XXIe siècle, quand on entend le terme pharisien, on se crispe un peu. On sait que c'est le mauvais, que c'est le méchant, que c'est le mauvais exemple, et que le collecteur d'impôts, bah oui, c'est forcément le gentil, c'est forcément le bon exemple. Alors c'est vrai qu'on est déjà au chapitre 18 du livre de Marc, donc il y a déjà pas mal de choses qui se sont passées dans le récit de Luc, pardon, Luc, effectivement, pas Marc, merci. C'est bien, vous écoutez. Exactement. Et comme je dis des bêtises, il faut les corriger. Mais Jésus a déjà eu beaucoup d'altercations avec les pharisiens. Il a déjà eu même des paroles piquantes, pour ne pas dire dures, à l'encontre des pharisiens. Il les a même condamnés. Malheur à vous, pharisiens. Mais si je me remets dans la culture de l'époque, dans la société de l'époque, c'est exactement l'inverse de la conclusion à laquelle on arrive. Le pharisien, c'est forcément le bon exemple. Et le collecteur d'impôts, c'est forcément le mauvais exemple. Parce que les collecteurs d'impôts, à l'époque, ce n'étaient pas considérés comme des simples fonctionnaires, mais comme des pécheurs, comme des voleurs, comme des gens haïssables. Le gouvernement romain prélevait des taxes. Normal. Mais ce n'est pas les Romains qui prélevaient des taxes. Ils ne le faisaient pas directement. Ils demandaient à des Juifs de le faire pour eux. Et le système permettait à ces collecteurs d'impôts de faire des profits en demandant plus que ce que les Romains exigeaient. Ils toléraient ça. Donc il y avait un système qui était mis en place avec tous les ingrédients pour favoriser la malhonnêteté, l'avarice, la corruption. Et puis, si ces Juifs décidaient de devenir collecteurs d'impôts, c'est qu'ils travaillaient pour l'ennemi, pour l'occupant romain. C'était donc des traîtres envers leur nation. Et pour certains, puisqu'Israël était le peuple de Dieu, ils trahissaient Dieu également. Certains commentateurs disent que les collecteurs d'impôts étaient par défaut exclus ou mis à part des activités religieuses. Bref, des gens qu'il y avait, où il y avait tout ce qu'il y a de plus mauvais et infréquentable. Voilà la réputation du collecteur d'impôts. Les pharisiens, quant à eux, ben ce sont les champions de la loi. Le mot pharisien vient d'un terme araméen qui signifie se séparer, se distinguer. Leur mouvement commence il y a bien longtemps avant Jésus-Christ, environ moins 150 ans avant Jésus-Christ. Ce sont des Juifs qui voient l'influence que la société a sur le judaïsme, en particulier la culture grecque, la culture helléniste, qui, sur beaucoup d'aspects, va à l'encontre, pas juste de leurs croyances, mais va à l'encontre de la loi que Dieu leur a donnée. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent en œuvre tout un tas de principes, de préceptes, comme un mur supplémentaire, protecteur, autour de la loi de Moïse, pour être sûr qu'ils vont maintenir leur identité religieuse. Et cette identité religieuse, ils la maintiennent autour d'une interprétation très stricte de la loi. Ils veulent se maintenir purs, séparés du monde et des mauvaises influences. Ils donnent la dîme, c'est-à-dire 10% de leurs revenus. C'est effectivement ce que Dieu leur demande. On peut lire ça dans Deutéronome 14, par exemple. Donc ils obéissent à la loi. Ils jeûnent. Alors il y a très peu de préceptes relatifs au jeûne dans la loi de Moïse, mais on voit que c'est une pratique qui a été présente à toutes les époques, dans tous les pays, et qui servait à plusieurs choses, quand on voit les différents exemples qu'on peut lire même dans la Bible. Le jeûne sert à manifester le deuil, à manifester une affliction. On peut le considérer comme un acte de pénitence, mais on peut aussi le considérer comme une préparation à une vie moins charnelle, moins terrestre, plus pur. Il me semble qu'on peut voir dans le Nouveau Testament aussi d'autres aspects, mais en tout cas, à l'époque de Jésus et à l'époque de l'Ancien Testament, c'est ce qu'il en était. Et c'est probablement dans cet esprit-là, dans ce dernier aspect d'une vie mise à part, d'une vie moins attachée aux choses terrestres, que jeûnaient les pharisiens. 2 jours par semaine. Quel zèle! Ce pharisien, après tout, c'est un homme bien sous tout rapport. Si j'examine sa vie, qu'est-ce que je peux lui reprocher ? En apparence, il a une vie exemplaire, d'honnêteté, de fidélité. Il fait ce que la loi demande. Il fait donc ce que Dieu demande. Si on actualisait cette parabole, ça serait le paroissien idéal dans l'Église, non ? Zélé, présent à toutes les réunions, à qui on ne peut rien reprocher en termes d'action. En tout cas, lui ne voit rien à se reprocher. Mais comme Dieu a dit au prophète Samuel, l'homme ne voit que ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Ce pharisien semble se satisfaire de la situation. Non seulement il éprouve de la fierté pour ses actes, mais en se comparant aux autres, en se jugeant supérieur, on voit en réalité, tu l'as dit Didier, que son cœur est plein d'orgueil. Un orgueil tel qu'il ne demande même rien à Dieu. Pour lui, ses actions sont suffisantes pour s'approcher de Dieu. Ses actions sont suffisantes pour le justifier. Parce que toute la question est là. Qui suis-je, moi, pour m'approcher de Dieu ? Qui suis-je pour lui parler ? Est-ce que je suis suffisamment juste pour m'approcher de celui qui ne peut pas supporter le mal, de celui qui est parfait, de celui qui est trois fois saint ? Pourquoi est-ce que ce pharisien se croit juste ? Mais ses actions parlent pour lui, n'est-ce pas ? Mais comme vous l'avez très bien dit, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que ce n'est que par grâce que nous pouvons nous approcher de Dieu et que tous nos efforts sont vains. Nos bonnes actions ne peuvent être que l'expression de notre reconnaissance pour ce que Dieu a déjà fait. Nos bonnes actions ne peuvent être que le témoignage de notre attachement à lui. Nos bonnes actions ne peuvent être que l'expression de notre désir de lui plaire. Et nos bonnes actions ne seront jamais suffisantes, jamais assez parfaites pour que nous méritions de nous approcher de Dieu. Nous ne pouvons que saisir par la foi cette main que Dieu nous tend, par pure grâce. Ah, qu'est-ce que la grâce est merveilleuse ! Dieu merci ! Dieu merci parce que nous avons compris ça. Dieu merci parce que nous savons que nos actions ne nous font rien mériter. Dieu merci que nous avons compris que c'est par grâce que nous pouvons nous approcher de lui, que tout est grâce. Dieu merci, car nous ne sommes pas comme ce pharisien, orgueilleux, qui n'a pas compris ou voulu comprendre que tout est par grâce. Oups. Effectivement, Dieu merci, car je ne suis pas comme ce pharisien. Ça y est, je suis lui. Je suis devenu ce pharisien. Alors bien sûr, moi je dis absolument pas, comme lui le dit, que c'est par mes actes que je suis meilleur ou supérieur. Mais si je commence à penser que par ma foi, par ma compréhension, par ma connaissance, ben, je suis mieux, je suis plus juste, je suis plus méritant, je suis simplement au-dessus de lui. Mais je suis devenu ce pharisien. Et je commence à voir que l'orgueil est malheureusement bien plus souvent que je ne voudrais me l'avouer au seuil de mon cœur. Dans un livre que j'ai lu il y a quelque temps, l'auteur parlait de cette rencontre qu'il avait faite par hasard avec un ami de longue date. Ils échangent quelques mots, ils se promettent de se revoir plus souvent. Puis en partant, cet homme repense à sa conversation et à toutes les fois où il a voulu faire bonne impression, où il a voulu un peu plus que partager des infos, mais il a voulu montrer qu'il avait réussi sa vie. Ça vous arrive pas à vous ? On veut montrer qu'on a réussi, qu'on a de l'importance dans le travail, dans la famille, dans l'église. Et toi ? T'as beaucoup de responsabilités dans ton boulot ? T'as de l'importance, on te demande ton avis quand il y a une décision importante. Ah, on le formule pas comme ça, bien sûr. Si t'es chef de ton entreprise, ça marche, t'as du succès. Est-ce que tes enfants font des grandes études ? Est-ce qu'ils ont un bon classement ? Est-ce qu'ils sont des champions dans certains sports? Et ton église, il y a combien de membres? Vous avez eu des baptêmes ou des conversions cette année? Est-ce qu'on est en train d'échanger des nouvelles, là? Est-ce qu'on est en train de se réjouir de ce que Dieu fait? Ou est-ce qu'on veut montrer qu'on est un peu au-dessus du lot? Et on arrive même à mettre Dieu dans l'équation, parfois. Si on est peut-être plus béni que les autres, ou si on ne passe pas par certaines épreuves, c'est parce qu'on est plus fidèle. Parce qu'on est mieux zélé. On est plus attaché à Dieu. On a mieux compris que les autres, n'est-ce pas? Car celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Est-ce que je ne dois pas reconnaître que j'ai bien trop souvent envie de m'élever? Mais l'orgueil, c'est aussi parfois le refus de s'abaisser. Quand dans ma vie, je suis coincé, quand je passe par un moment compliqué et que je ne veux pas chercher de l'aide. Demandez à ma femme, je ne demande pas d'aide. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'orgueil là-dedans? Quand je ne veux pas laisser ma place, quand je veux tout faire et tout gérer parce que moi je sais, parce que si je veux que ce soit bien fait, il faut que ce soit moi qui le fasse. Est-ce que ce n'est pas un peu mon orgueil qui parle? Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus avait déjà dit cette phrase juste quelques chapitres avant. Dans Luc 14, 11, quand il raconte la parabole de ses invités qui veulent s'élever, qui veulent montrer qu'ils sont importants, en recherchant les places d'honneur dans un banquet. Et au final, ils se retrouvent rabaissés parce qu'ils doivent céder ces belles places pour se retrouver aux places les moins enviables. Mais dans cette parabole-ci, ce n'est pas de nos actions dont il est question et auxquelles Jésus nous invite à réfléchir. C'est à nos pensées, à nos désirs, à notre cœur. Ce pharisien, il prie intérieurement. Personne ne connaît sa prière, si ce n'est Dieu. Et cette question de l'orgueil, ce n'est pas juste la question d'avoir une réponse ou non à la prière. C'est ce qui rend possible ma relation avec Dieu. Jacques nous rappelle au chapitre 4, verset 6, que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Alors si nous devons avouer être parfois un petit peu pharisiens, on peut aussi regarder comment ce collecteur d'impôts peut nous inspirer. Si on peut qualifier le pharisien d'orgueilleux, on peut voir que ce qui caractérise ce collecteur d'impôts, c'est effectivement l'humilité, ça a déjà été dit. Finalement, lui aussi se regarde. Lui aussi, ce collecteur d'impôts, se définit en « je suis ou je ne suis pas ». Mais lui ne se définit pas en se comparant aux autres. S'il dit « je suis », ce n'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à Dieu. Il reconnaît justement qu'il est forcément indigne de s'approcher de Dieu. Il ne parle pas même pas de ses actes, de ses actions, peu importe. Il se regarde juste par rapport à Dieu et sait qu'il est indigne. On peut voir aussi qu'en ne se comparant pas aux autres, il n'est pas en train de développer un sentiment de supériorité, ni un sentiment d'infériorité. Parce que parfois on confond cela quand on parle de se rabaisser. Se rabaisser, ce n'est pas avoir un sentiment d'infériorité. Se rabaisser, ce n'est pas se sentir inférieur. Se rabaisser, c'est laisser la place. Laissez la place à Dieu. Laissez la place aux autres. C'est pour ça que le pharisien ne demande rien. Il n'y a même pas de place pour Dieu dans sa prière. Aie pitié du pécheur que je suis. Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Alors ce terme pitié peut nous gêner un petit peu. Parce que quand on parle aujourd'hui d'avoir pitié ou de faire pitié, il y a parfois une notion de mépris ou de condescendance. Mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Le sens premier à retenir, et je me suis basé sur la Rousse en ligne, c'est compatir aux souffrances ou, dans notre cas, à la faiblesse. d'autrui. Compatir à la faiblesse d'autrui, considérer avec compassion, traiter avec une indulgence particulière. Et on le voit, ce terme « aie pitié du pécheur que je suis », d'autres Bibles choisissent de traduire par « sois apaisé envers moi ». En disant cela, ce collecteur reconnaît la souveraineté de Dieu, la sainteté de Dieu, et donc il reconnaît sa dépendance. Parce que quand je demande pitié, c'est que je reconnais ma faiblesse, c'est que je reconnais mon incapacité, c'est que je reconnais mon impuissance. Et je demande pitié à qui ? À quelqu'un qui, lui, est fort, lui est capable, lui est puissant, et lui peut faire quelque chose. Et donc ce collecteur, par cette phrase, affirme sa totale dépendance de Dieu. Et en réalisant ça, je réalise que cette prière « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis », ce n'est pas seulement la prière de celui qui se convertit et se tourne vers Dieu. Ça peut être aussi ma prière, celle de tous les jours. Je reconnais le péché dans ma faiblesse et dans mon incapacité à faire ce qui est juste. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie compassion. Seigneur, sois indulgent. Je dépends de toi. Je dépends de toi pour être un bon mari. Je dépends de toi pour être un bon père. Je dépends de toi pour être un bon collègue de travail. Je dépends de toi pour être une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Je dépends de toi pour faire ce que tu attends de moi. Oui, bien sûr, j'ai ma part à faire. J'ai à me mettre en marche. Mais Seigneur, aie pitié, je suis si faible et si peu capable. Et toi, tu es tout-puissant. Pour conclure, j'aimerais revenir à ce que je vous avais dit il y a quelques semaines de ça, quand j'avais prêché sur l'autre parabole, pour vous rappeler que souvent dans ces paraboles histoires, le message se trouve dans le retournement, le pivot, ou dans ce qui est inattendu ou surprenant. Et dans cette parabole, il y a quelque chose de surprenant. C'est que le pharisien, qui est si parfait, si juste, si exemplaire dans la société dans laquelle est Jésus, il n'est pas justifié. Parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Et la question qui vient naturellement, c'est y a-t-il, ou peut-être plus justement, quelles sont les racines d'orgueil dans mon cœur ? Pardon Seigneur, parce que je dois reconnaître qu'il y en a. Et aide-moi à le faire le ménage, parce que je ne veux pas les garder en moi. Mais j'aimerais vous amener aussi à une autre conclusion. Le collecteur d'impôts est justifié. Sa prière a été entendue, reçue, répondue. Alors oui, il reste indigne de s'approcher de Dieu. Oui, il doit rester abaissé pour laisser la place à Dieu. Oui, il reste dépendant de Dieu. Mais dans cette dernière phrase de Jésus, il est en train de dire que son identité, c'est plus pécheur, mais c'est juste. Dieu a eu pitié et il a été justifié. Et j'aimerais nous inviter à être toujours étonné, à être toujours émerveillé que Dieu fait grâce. C'est peut-être pas surprenant, c'est peut-être pas inhabituel parce qu'on connaît Dieu. Mais n'arrêtons pas de nous étonner. N'arrêtons pas d'être émerveillé que Dieu fait grâce. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Quel cadeau! Quel cadeau! Il nous permet de nous approcher de lui. Seigneur, tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes. Tu connais nos pensées, tu connais nos désirs. Et Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons et nous voulons que tu puisses te réjouir de nos vies, Nous voulons apprendre à mieux te connaître. Nous voulons te suivre, marcher dans tes pas. Et Seigneur, si il y a des racines d'orgueil dans notre cœur, s'il y a des choses où nous ne te laissons pas toute la place, s'il te plaît, fais le ménage. Aide-nous à nous débarrasser de ça. Aide-nous à réaliser, Seigneur, tout ce qu'il y a encore dans nos cœurs et qui s'oppose à toi. Seigneur, nous voulons humblement nous approcher de toi. Nous voulons te remercier parce que tu nous accueilles. Nous voulons te remercier parce que ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas nos actions. De toute façon, nous n'en ferions jamais assez. Mais c'est par amour et par grâce que tu nous accueilles. Merci de nous permettre de saisir cette main que tu nous tends. Merci d'entendre nos prières, d'être avec nous chaque jour. Merci de régner dans nos vies, de nous offrir une espérance glorieuse, la joie de savoir que nous passerons l'éternité avec toi. Seigneur, sois béni. Amen.